RJB Info. Régis Maria.
Bonsoir, les espoirs de promotion du FC Bien sont éteints. La formation ceylandaise de Promotion League de football s'est inclinée cet après-midi 3-0 contre les moins de 21 ans du FC Bâle. Avec cette défaite combinée aux autres résultats de cette avant-dernière journée du championnat, le FCB ne peut plus terminer à la première place du classement. Jérémy Pignard, vous avez suivi cette rencontre en direct. On vous retrouve en compagnie du président du FC Bien, Dietmar Fess, après cette déception.
Oui, président, malheureusement, c'en est fini pour les espoirs de monter pour le FC Bien. Bien qui a pourtant globalement dominé pendant longtemps ce championnat de Promotion League qui s'écroule sur la fin de saison. Est-ce que pour le président que vous êtes, la déception est vraiment immense ce soir?
Oui, c'est bien sûr, c'est une grande déception. On espérait quand même de chercher la promotion en Challenge League. Je pense que ça va aussi faire du bien pour la Ligue d'avoir un club comme Bien dans ses rangs. Mais bon, finalement, maintenant, on doit assumer la loi. On n'a pas concrétisé aux occasions qu'on a eues aujourd'hui. Et puis finalement, voilà, on a joué contre une belle équipe. Et je ne pense même pas que c'est ce match de ce jour-là qui nous fait passer la promotion. On a joué contre une équipe comme Pauwels qu'on devrait gagner facilement. On a joué à Lugano qu'on devrait gagner facilement. Puis on n'a pas gagné. Alors, dans ce cas-là, on ne mérite pas d'être promu en Challenge League. C'est si facile. Hein.
Justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui s'est passé dans ce second tour par rapport au premier tour où Bien vraiment était ultra dominateur? Est-ce que la coupe, finalement, n'a pas aussi joué un effet néfaste dans ce calendrier?
Bon, on se peut faire plein des analyses maintenant, mais je pense que c'est clair, la coupe elle pèse lourde parce que voilà, c'est quand même des matchs intenses qu'on a joués. Les autres équipes dans la Promotion League n'avaient pas ce match-là. Et puis, il y a beaucoup de focus là-dessus. On a toujours bien joué. Ça nous a mis aussi dans une certaine euphorie. Et puis après, voilà, de se retrouver de nouveau dans la vie normale de la Promotion League, je pense que ça peut aussi faire un changement au sein, disons, de la motivation. C'est difficile à dire maintenant. On sait maintenant qu'on reste encore une année en Promotion League. Maintenant, et voilà, il faut accepter. Et puis après, il faut se bien préparer. En tout, il faut quand même dire que c'était quand même une belle saison qu'on a jouée. On a vu la capacité, les compétences du staff, etc. Maintenant, voilà, il faut assumer la situation comme elle est. Et j'espère, voilà, qu'on se retrouve l'année prochaine dans une situation peut-être un peu, ouais, meilleure situation.
Est-ce que vous prenez ça comme un échec au vu des objectifs affichés, des moyens qui ont été mis aussi dans cette équipe?
Bon, un échec, non, on ne peut jamais parler d'un grand échec parce que finalement, on savait qu'il y a des autres équipes. Aperçu, ils mettent beaucoup plus de moyens que nous. Kriens, je ne connais pas, mais je pense aussi. Alors voilà, on a très bien travaillé. Je félicite le staff, je félicite aussi les joueurs, je félicite aussi nos supporters. Alors voilà, je pense maintenant, il y avait des autres équipes qui étaient plus malins que nous. D'accord, il faut accepter. Eux, ils avaient aussi des crises. Maintenant, peut-être, voilà, et comme j'ai déjà dit, cette coupe, c'était quand même peut-être quelque chose qui nous a freinés. Parce que, voilà, c'était des matchs intenses, mais je ne veux pas chercher maintenant l'excuse sur ça. Maintenant, il faut accepter, il faut se réjouir maintenant pour la finale qu'on va jouer le 1er juin dans le Vanctof à Berne.
Dernière question, pour l'année prochaine en Promotion League, vous voulez conserver grosso modo cette équipe, ce staff-là?
Moi, bien sûr, le staff de toute façon, l'équipe, je ne sais pas, parce que voilà, certainement, ils se sont bien mis en vitrine, ces joueurs-là. Je pense qu'il y a maintenant plein de propositions pour ces joueurs de la Challenge League. Après, on ne peut pas dire ou on ne peut pas éviter que des joueurs y partent. J'aurais aimé qu'on cherche la promotion, comme ça, pour garder ensemble l'équipe. Alors, il faut voir maintenant, il faut négocier avec les joueurs. Les joueurs, ils voient ici à Bien, on peut faire quelque chose. Ce n'était pas cette année, maintenant on espère que ça sera l'année prochaine.
Merci beaucoup, président Dietmar Fess, d'avoir été en direct dans le journal. Voilà pour l'analyse du président. La déception, oui, ce soir, mais il y a encore une énorme carotte et peut-être une énorme fête à aller chercher. Ce sera évidemment la finale de la Coupe de Suisse le 1er juin prochain.
Merci Jérémy, à noter que la suite de l'actualité sportive sera retrouvée à la fin de ce journal. On revient donc à l'actualité de la région avec cet anniversaire 100 ans, c'est l'âge vénérable de l'école secondaire du Bas de la Vallée à Malraye. Pour célébrer ce jubilé, plusieurs manifestations se déroulent depuis le début de l'année. Dans le cadre de ces festivités, une trentaine d'élèves proposaient hier soir à la salle communale de Malraye une adaptation théâtrale de Micromégas, le conte philosophique de Voltaire. La pièce était suivie par un concert donné par la chorale de l'école sur le thème « Un siècle en chanson ». Un spectacle mené avec beaucoup d'enthousiasme et une grande maîtrise, de quoi ravir le maire de Valbir, c'est également responsable du dicaster des écoles, Jacques-Henri Youffert.
Alors le spectacle, alors la première partie, le théâtre, j'ai trouvé très ambitieux. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien mis en scène. Alors peut-être que pas tout le monde a apprécié à sa juste valeur parce que c'était quand même un théâtre d'une certaine qualité. Mais moi j'ai bien aimé. Alors je dois dire franchement, c'est ça ressort de l'ordinaire, c'est pas du vaudeville, hein, mais j'ai bien aimé, oui. Et puis pour la partie à l'Orchamps, transporté, j'en ai eu les larmes, quoi. Franchement, c'est beau de voir ces jeunes chanter et puis ça transporte.
Ça vous a rappelé des souvenirs?
Oui, parce que, alors pas forcément les souvenirs les premières années, hein, puisqu'ils ont pris 10 ans après 10 ans, mais il y a quand même certaines musiques qui étaient là, en fait, de mon enfance, finalement, puis après, de mon adolescence, et puis c'est beau de voir un panel de musique comme ça interprétée.
Et tiens, puisqu'on est dans les souvenirs, notez que hier soir à Malleret, après le spectacle, on est aussi tombé sur un ancien élève de l'école secondaire, devenu depuis conseiller d'État, un certain Pierre-Alain Schneck.
Oui, tout à fait. Je suis un ancien élève de cette école où j'ai passé 5 ans de scolarité. D'ailleurs, j'avais participé au 50e, non pas comme ancien élève, mais comme élève.
Est-ce que vous étiez bon élève dans cette école ?
Ah, j'étais, je dirais, pas trop mauvais, mais pas tout à fait tout devant.
Quels souvenirs vous gardez de cette période ?
Ce n'est pas les meilleurs souvenirs, je dirais, que j'en garde. J'ai nettement préféré, je dirais, le monde professionnel.
À noter encore que la fête se poursuit ce soir et cette nuit à Malleret avec une réunion des anciens élèves. C'est également un week-end de fête à Péry-la-Heutte. Depuis hier, la commune célèbre les 10 ans de fusion des deux villages du Bas-Vallon. Pour rappel, le 30 mars 2014, la population des deux entités entérinait officiellement le projet avec un oui massif. Péry à 82,2% et la Heutte à 90,3%. La fusion devait ensuite entrer en force au 1er janvier 2015 pour fêter, comme il se doit, ses noces d'étain. Les autorités invitent la population à participer à différentes activités au centre communal de Péry. Les festivités autour des 10 ans de la fusion de Péry-la-Heutte se poursuivent encore ce soir et jusque tard dans la nuit. Brune Suisse locale, c'est le nom de la manifestation mise sur pied par l'organisation Braun v Schweiz qui défend les intérêts des éleveurs de cette race bovine. L'événement organisé sous la forme d'une journée porte ouverte et découverte se déroule pour la première fois en Suisse romande ce samedi au-dessus de Perfit à Plainfayen sur l'exploitation de la famille Colli. Cette dernière compte une quarantaine de vaches brunes suisses, une race peu répandue dans les élevages de notre région bien qu'elle présente de nombreux avantages. Martin Colli, président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois mais aussi hôte de la manifestation, nous les détaille.
Un grand avantage peut-être pour la personne tout public, c'est vraiment qu'elle est docile, elle est attachante. Les langues méchantes diront même qu'elle est lèche-cul, elle nous suit un peu partout souvent. Après, là, au niveau de ses caractéristiques, elle est robuste, hein, puis elle s'adapte très facilement à son entourage. Si elle vit en plaine et puis tout, et puis on l'a bien sélectionnée, elle produira bien du lait. Elle aura surtout des bonnes teneurs en protéines pour faire le fromage, aussi des bonnes protéines pour faire du fromage. Elle a une certaine longévité, elle avait l'âge facile. Et puis si elle doit une fois vivre un peu dans un climat plus rude, elle y arrivera aussi, bien sûr, en produisant un peu moins, comme c'est le cas chez nous.
Alors vous entendez, il n'y a que des avantages, on imagine qu'il y a aussi quelques inconvénients. En tout cas, on le sait, vous, ce n'est pas la race la plus répandue dans la région. C'est quoi les défis contre lesquels vous devez vous battre avec cette race ?
Alors, le défi, c'est vraiment dans l'élevage que... On ne sélectionne pas que la belle vache, tout, mais c'est vraiment la vache qui produit, parce que tout compte fait, on vend notre lait, et puis c'est ça qui nous rapporte le gain à la fin. Donc le défi que des fois certains éleveurs pourraient peut-être oublier, c'est vraiment d'avoir une vache qui est productrice aussi.
C'était Martin Colli, président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois, mais aussi hôte de la manifestation Brune Suisse locale. Elle se déroule aujourd'hui sur son exploitation à Plainfayen, au-dessus de Perfit. À noter que l'événement se poursuit encore ce soir avec animation musicale et restauration. L'entrée est libre. Plus de 10 000 travailleurs du bâtiment ont manifesté cet après-midi à Lausanne et Zurich. Ils ont réclamé des augmentations de salaire, des horaires de travail favorables à la vie de famille et le respect de leur travail. Ces manifestations étaient placées sous le slogan « Respect pour notre travail » avec en toile de fond la Convention nationale qui arrive à échéance en fin d'année. De leur côté, les syndicats Unia et Sina déclarent ne pas s'attendre à des négociations faciles. Manifestation également à Genève où la mobilisation en faveur du peuple palestinien ne faiblit pas. Cet après-midi, plus de 2500 personnes ont défilé au centre-ville de la cité de Calvin pour dénoncer la machine génocidaire du gouvernement israélien. Ce sont les mots du mouvement BDS Genève, organisateur de ce rassemblement. Une manifestation qui marquait les 77 ans de la Nakba, soit la catastrophe en arabe qui correspond à la première expulsion des Palestiniens de leur terre en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Qui succédera à Nemo? C'est la question qui est sur toutes les lèvres à quelques heures du coup d'envoi de la grande finale de l'Eurovision à Bâle. 26 pays vont s'affronter pour remporter le trophée ce soir à partir de 21h dans la cité rhénane. Zoé May, qui représente la Suisse, va devoir batailler face à une rude concurrence. C'est la Norvège qui ouvrira les hostilités selon l'ordre de passage dévoilé hier sur Instagram. L'Albanie, quant à elle, y mettra un point final. La Suisse passera en 19e position entre l'Arménie et Malte. À noter encore que selon les parieurs, c'est la Suède qui est favorite pour remporter son 8e trophée à l'Eurovision. Dans l'actualité internationale, au moins 20 morts ont été recensés aujourd'hui par les autorités du Kentucky et du Missouri, deux états du centre des États-Unis, après le passage de tornades. Ces dernières ont notamment provoqué d'importants dégâts dans la grande ville de Saint-Louis. À noter qu'en 2024, les accidents provoqués par des tornades ont fait 54 morts aux États-Unis, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Comme promis en début de journal, on revient au sport. Vous l'avez entendu au début de cette édition, le FCBN ne sera donc pas promu à l'issue de la saison. La formation ceylandaise de Promotion League de football s'est inclinée 3-0 cet après-midi contre les moins de 21 ans du FC Bâle. Avec cette défaite et les autres résultats de l'après-midi, le FCB ne peut plus terminer à la première place du classement. Des réactions seront à entendre demain dans nos différentes éditions. Une nouvelle journée off pour l'équipe de Suisse au championnat du monde de hockey sur glace. L'occasion de digérer les deux grosses nouvelles d'hier. Le forfait pour la suite du tournoi du capitaine Nico Hischier et la qualification pour les quarts de finale officiellement assurée après la victoire 3-0 contre la Norvège. Une nouvelle victoire acquise sans trembler par les Helvètes qui n'ont encaissé qu'un seul but lors de leurs trois derniers matchs. Une solidité sur laquelle ils peuvent construire la suite du tournoi. La réaction du gardien Stéphane Charlin.
Oui, sur cette solidité défensive, mais même dans le jeu en général, je pense qu'on a montré de plus en plus de constance au fur et à mesure que les matchs avançaient. Et je pense que oui, c'est positif.
L'équipe de Suisse a rempli sa première mission ici au championnat du monde et est désormais assurée d'être qualifiée pour les quarts de finale.
Oui, première mission, mais je pense qu'on en veut plus. Voilà, il reste encore quelques matchs à jouer, donc on va se concentrer là-dessus pour essayer d'avoir que des victoires.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial au championnat du monde, Christophe Moreillon. Prochain match pour l'équipe de Suisse demain soir contre la Hongrie. À noter encore que plusieurs matchs se sont disputés aujourd'hui au championnat du monde. Dans le même groupe que la Suisse, les États-Unis ont battu l'Allemagne 6-3. Dans le groupe A, la Finlande a battu la Lettonie 2-1 à Stockholm en Suède. Luc Plapp a remporté en solitaire la 8e étape du Tour d'Italie cet après-midi à Castelremondo. Le cycliste sur route australien s'est imposé après être parti seul à 46 km de l'arrivée en sortant de l'échappée. Troisième de l'étape à 38 secondes, l'Italien Diego Ulissi s'est emparé du maillot rose du leader du classement général. Enfin en Formule 1, Oscar Piastri partira en pole position du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola demain. Le leader australien du championnat du monde a remporté les essais qualificatifs cet après-midi en Italie. Le pilote de McLaren a précédé le néerlandais Max Verstappen et son coéquipier britannique Lando Norris. On termine ce journal par un point météo. Ce soir et cette nuit, le ciel restera partiellement couvert, mais le temps devrait rester sec. La nuit sera fraîche, avec des températures comprises entre 4 et 6 degrés au mieux. Demain, c'est un temps similaire à celui d'aujourd'hui qui devrait nous accompagner. Comprenez par là majoritairement du soleil, mais aussi quelques nuages avec un risque d'averse isolée en deuxième partie de journée. Côté température, on attend au mieux 19 degrés avec toujours une faible bise qui rafraîchira légèrement l'atmosphère. Voilà qui marque la fin de ces informations. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'RJB et vous retrouve demain dans le journal de Midi et Quart.